Guillaume, donc j'aime bien ta dernière phrase.
Attends,
je voulais savoir si tu... si toutes tes analyses, tes expertises, etc., avaient été communiquées aux acteurs locaux, parce que bon, cette belle sociologie, elle est intéressante à nous communiquer, nous, mais je pense que tu as tout un ensemble d'observations à partager avec les acteurs. Et donc, ne serait-ce que mettre en place ton dernier vœu, est-ce que ça a passé par voilà, des communications, tes résultats? Comment ça s'est passé, justement, le rapport aux enquêtés?
On fait d'abord le tour de toutes les questions, sinon, de toute façon, c'est impossible. Oui.
Bon, moi, je voudrais seulement avoir une précision. Ces gens à qui on a mesuré de 1 à 5, ça veut dire qu'ils ne font que regarder? Ils n'ont pas d'action sur le thermostat?
Non, encore une fois.
Attends, je termine là. Parce que s'ils ne peuvent pas agir sur le thermostat, ça correspond à ce que tu as dit par ailleurs à l'exposé, c'est que chaque société assez bien pensant qui savent où sont les ploucs. Et avant, les ploucs, c'était les agriculteurs, mais les ploucs, ici, ils sont beaucoup moins ploucs que les gens de ce quartier. Hein, les ploucs, c'est vraiment les gens du ghetto urbain. Alors que les agriculteurs, qui n'ont pas d'éducation, sont censés, au contraire, bien mieux comprendre l'énergie.
Oui, moi, j'avais plein de questions, mais je très vite. Michel Bonetti, chercheur consultant, et j'ai passé ma vie dans des recherches et aussi des missions dans les quartiers d'habitat social et notamment d'animer des dispositifs de participation. Et je suis... il y a des choses très intéressantes dans ce que vous dites, mais il y a vraiment des gros problèmes. C'est dommage qu'on n'ait pas le temps de débattre. Le premier, moi ça ne me gêne pas que vous ayez pris des échantillons différenciés. C'est très intéressant comme méthodologie, mais par contre, là où il y a un biais, vous prenez d'un côté des locataires d'habitat collectif et de l'autre côté des propriétaires de logements individuels. Donc ça vous sortez de l'épure, en mon sens. Vous auriez pris une copropriété bourgeoise, ça aurait été très intéressant. Parce que là, on est face surtout à des gens qui, comme vous le dites d'ailleurs, n'ont aucune maîtrise sur le système technique, à la différence des propriétaires individuels. Et derrière ce que vous dites, ça pose un gros problème, l'absence de maîtrise. La loi veut maintenant juste individualiser le comptage du chauffage qui permet aux gens, à ce moment-là, de se chauffer comme ils veulent, peu ou beaucoup. Et alors moi, en tant que sociologue, je suis terrifié par ce système-là dans le logement social. En donnant la maîtrise, ça veut dire qu'il y a des gens, et ça on l'a déjà vu avec le système de chauffage, quand il y avait des systèmes doubles, une partie collective, une partie individuelle avec chauffage électrique. Ça a été désastreux parce que vous avez des gens, on va avoir des gens, d'accord, ils auront la maîtrise, mais qui ne se chaufferont pas, leurs logements vont pourrir. Et il y aura du vol aussi de calories à travers ça, etc. Donc derrière l'absence de maîtrise, il y a aussi, en donnant la maîtrise individuelle, des effets sociaux qui peuvent être absolument dramatiques. Enfin, il y a plein de questions, c'est dommage quand même, parce que par ailleurs, votre intervention, vos deux interventions soulèvent plein de choses.
Oui, merci. Très bref, j'ai pas très bien compris, il y avait une diapo un peu précédente, mais vous parliez d'exclure les acteurs les plus fragiles de la possibilité de définir, j'ai pas suivi le reste, et vous parlez aussi de néo-hygiénisme. Je voulais juste faire un rapprochement. Il me semble que la définition de précarité énergétique fait justement des acteurs les plus fragiles, ne cherche pas à les aider à définir des seuils de consommation, mais au contraire, leur définit comme minimal, comme nécessaire à un mode de consommation.
Oui, une question, ce sera pour madame. Je voulais savoir sur les agriculteurs justement, qui font la méthanisation, si sur les territoires en question, il y en a qui auraient pu en faire et qui n'en ont pas fait.
Parce que je me rappelle, quelqu'un avait travaillé un peu là-dessus, et puis il y avait une résistance par rapport à leur identité professionnelle, l'identité intime qu'ils avaient. Ils disaient, on n'est pas producteur d'énergie. Donc, je voulais savoir, par rapport à ça, si c'est des, ça fait écho un peu à des choses que vous avez pu voir.
Oui, deux questions. Une sur la technicisation. On a l'impression, dans le premier exposé, que la technicisation... vient en quelque sorte accroître l'autonomie du territoire, l'autonomie au sens politique du territoire, donc une technicisation qui libère en quelque sorte, enfin l'acquisition de cette technicisation qui libère. À l'inverse, on a l'impression dans votre présentation que la technicisation vient au contraire enfermer. Voilà, bon, donc là il y a un paradoxe entre les deux présentations. La deuxième question, elle portait sur la deuxième intervention, c'est vous avez utilisé le terme de les possibilités d'action prennent de plus en plus la forme d'une variable technique en parlant de la cogénération. Moi, ce que vous avez décrit de la cogénération, c'est exactement ce que j'ai vu il y a 10 ans à Grenoble, où il y avait un projet similaire sur la caserne de Bonne. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est relativement neutre pour les habitants, qui s'est passé entre techniciens. C'était très très compliqué, ça a posé des tas de professions, ça a posé des tas de questions, y compris un peu privacy ou politique, mais les habitants n'en ont jamais entendu parler. Autrement dit, la technicisation... Enfin, je ne suis pas d'accord avec votre... quand vous dites que c'est de plus en plus technique, si on compare l'évolution de la cogénération avec Cartier il y a 10 ans, rien n'a changé. Voilà. Je m'appelle Gilles Debizet, l'Université Grenoble-Alpes, Laboratoire Pacte.
Je crois qu'on va vous laisser répondre. Il reste moins 5 minutes.
Peut-être une toute petite question pour l'ange d'Aubigny. Moi, je suis Mélicaëlle Alcine-Riollet de Pacte. À un moment, tu as évoqué qu'au sein des collectifs citoyens engagés dans les démarches d'autonomie énergétique, tu as pu observer l'émergence d'une préoccupation en matière énergétique. Donc, c'était pour savoir si c'est une observation issue des entretiens faits avec des acteurs, des individus les plus engagés, les plus actifs, ou est-ce que tu as pu observer une différence entre les individus pionniers et suiveurs au sein des mêmes collectifs.
Juste une remarque, il y a quelque chose qui me paraît intéressant, c'est cette question d'une négation du travail social. C'est-à-dire que dans l'exposé de Laure, il y a finalement l'idée que les systèmes tels qu'ils sont pris en compte, analysés, reconnus, etc., nient finalement le travail social qu'ils impliquent. Donc tu parlais de, par exemple du ramassage du bois nécessaire à la production. Mais on retrouve cette négation du travail social finalement aussi dans le deuxième exposé, mais de la part du chercheur d'une certaine manière. C'est-à-dire que il y a les travaux par exemple de De Certeau qui essayaient à une époque de montrer comment les uns et les autres produisaient un certain type de travail qui passait totalement en dessous des radars. Là, dans la recherche que tu mènes, Guillaume, c'est finalement tu essayes de reconnaître les modèles tels qu'ils sont promus par les différentes institutions dans le langage des acteurs, et tu vois finalement les décalages ou les impossibilités de... Or, c'est lié à toutes ces populations, leur capacité à produire des savoirs, produire des manières de faire qui sont, là encore, en dessous des radars et qui peuvent aussi participer d'une certaine... Voilà.
Je ne sais pas comment on va faire pour répondre, vu qu'on a déjà dépassé... On va finir dans la rue, allez-y.
Juste une remarque aussi, c'est vous présenter dans des conditions particulières de... dispositif de participation parmi 50 possibles, hein, et donc vous ne pouvez pas en tirer, monter en généralité sur la participation. C'est pas possible, je veux dire. C'est très intéressant en soi, par ailleurs, hein, mais les conclusions que vous en tirez, c'est pas possible. Parce que moi, je peux vous présenter 10 autres dispositifs de participation qui ont leurs propres défauts, qui vont produire tout à fait autre chose par ailleurs. Et dans le cas de l'habitat social, c'est pas de la participation, soyons sérieux, c'est de la formation.
Tu commences, hein?
J'ai peur qu'on n'ait pas le temps de parler tous les deux.
Non,
que tu aies au moins le temps de parler.
Je vais faire très vite, donc cette semaine, ça ira mieux, je pense. Je pense qu'il y a un point de précision qui est important, qui cadre aussi l'étude, qui peut répondre en partie à différentes questions, c'est que. c'est dans le cadre d'un programme Interreg. Dans le cadre d'un programme Interreg, on a des objectifs à atteindre, donc des objets de recherche qui sont déjà prédéfinis. Donc on n'a pas une liberté, on va dire, de pouvoir travailler sur tel ou tel objet de recherche. On devait travailler sur à l'échelle d'un bailleur social, à l'échelle de propriétaires, dans leur métropole de Strasbourg. Moi, je voulais aussi travailler sur à l'échelle plus d'une coopérative énergétique pour avoir pour diversifier un petit peu les modèles d'énergie renouvelable, les types de gouvernance possibles. Donc là aussi, pour le chercheur, il y a un espace des possibles limité. Donc on ne peut pas forcément multiplier les exemples pour monter en généralité. Je sais très bien que...
Non, vous ne pouvez pas faire une comparaison sur ces deux situations. Ce n'est pas possible, quelles que soient vos contraintes de commande, je veux dire.
Après, je pense que ce qui peut être intéressant, c'est de montrer comment est-ce que la participation-information, comment est-ce que la transition énergétique est introduite différemment à l'échelle de deux territoires, de deux espaces dans la ville, qui peut contribuer à générer des lignes de partage dans la ville en termes de pratiques durables. D'un côté, on a des dispositifs à destination des propriétaires qui peuvent faire le choix, et d'un côté, on a des dispositifs qui sont vraiment dans la moralisation et la gouvernance des petits gestes, qui peuvent aussi être lus comme en creux, comme des pratiques de stigmatisation entre pratiques dites énergivores, pratiques durables. Donc c'est intéressant de voir peut-être comment est-ce qu'il y a des dispositifs qui s'adressent à des populations différentes, à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'une ville, et qui peuvent générer, renforcer des lignes de partage déjà existantes, des formes d'inégalité. Donc,
peut-être pour aider un petit peu, c'est cette incommensurabilité que vous soulignez, on peut aussi imaginer que les institutions l'ont aussi, c'est-à-dire qu'ils considèrent comme radicalement différents ces deux mondes, et que peut-être que justement le discours et les dispositifs qu'ils mettent en œuvre sont là aussi incommensurables. Donc peut-être que justement travailler sur ces deux terrains peut permettre de montrer comment il y a deux discours qui peuvent se diffuser de manière totalement différente, parce que finalement les institutions présupposent cette incommensurabilité des territoires.
Sur deux types d'habitat collectif, effectivement, avec deux populations très différentes, mais c'est pas la même, on ne peut pas comparer avec un système où alors prendre deux quartiers pavillonnaires, un pauvre et un riche, à ce moment-là, mais qui est le même système technique, parce que là, le système technique structure plein de choses, quoi, je veux dire, c'est tout. Alors, quitte, on trouverait sans doute des processus que vous évoquez là, mais ça serait fiabilisé. Donc là, c'est pas possible, je veux dire. Et vous, moi, je ne pouvais pas en tirer ces conclusions, c'est pas possible. Ce qui n'empêche que chacune des analyses est intéressante. Pour autant, c'est juste ça.
C'est quand même le regard du pouvoir sur ces gens, la manière, en fait, des gens, le mépris qu'ils ont,
le mépris de
des gens de
Je ne suis pas d'accord avec vous. Pour travailler avec ces gens-là, il y a des gens qui les méprisent. Et là, il y a un effort, justement, qui est fait au contraire. Il faudrait voir très précisément. Bon, je ne connais pas le bailleur en question, quoique. C'est sans doute un des pires villes de France, par ailleurs. Mais vous ne pouvez pas en tirer ces conclusions. Il y a pas l'infantile. Il faut quand même. Enfin, je vais pas y venir, mais il faut. Faut savoir qu'on est, par exemple, dans des gens qui n'ouvrent jamais les fenêtres et les logements pourrissent, les immeubles pourrissent. Vous avez des situations terribles parce que, j'ai pas le temps de développer.
On pourra poursuivre après.
Qui est les bailleurs
entre eux, je ne
suis pas sûr que ce soit le cas.
Tu n'as pas de retour sur ton terrain une fois que tu as fait ces...
Si, on a fait un retour sur le terrain. Ouais, et
donc, tu as fait des rendus.
La perception, on va dire, de ces éco-gestes, de ces éco-activités, en étant une forme de stigmatisation, d'enjeu pratique.
Puisque s'il en fait l'intervention...
S'il vous plaît, on va essayer de...
Je vais peut-être faire vite pour donner la parole.
Oui, voilà.
Alors, je vais juste très vite revenir sur une autre question, qui était celle de la technicisation, il me semble. Je pars un petit peu de l'a priori que de plus en plus, l'agir sur la transition se base sur un acteur rationnel, donc déjà se base vraiment sur des leviers purement économiques, que ce soit par rapport à l'économie d'énergie, donc service de portefeuille, ou sans cela, la possibilité d'installer un toit solaire photovoltaïque, c'est on va dire un livret A sur son toit, d'une certaine manière, donc le seul levier d'action c'est finalement c'est la rationalité économique, c'est des dispositifs qui sont basés sur l'individu. Et donc on a un peu, la, comme le dit Jean-Baptiste Combi, cet homo ecologicus, où la participation est vraiment basée sur ce type d'acteur, sur cet idéal type finalement d'un acteur rationnel qui serait en situation d'information pure et parfaite. Et donc on nie peut-être, on va dire, les différents contextes sociaux de perception, d'acceptation de ces dispositifs. Et je suis d'accord, là encore une fois c'était le biais de la commande qui visait justement à analyser, on partait bien de l'acceptation sociale des dispositifs et des instruments, donc automatiquement l'étude sociologique passait sous silence, on va dire, les innovations sociales qui pouvaient être générées par les acteurs et par les pratiques des acteurs. Je l'entends très bien et je suis tout à fait d'accord. Je te laisse la parole.
Alors, je vais peut-être très rapidement rebondir là-dessus. Oui, il me semble que effectivement la technique libère ou qui enferme, mais c'est pas la même justement. C'est que c'est la même mais qui est dévoyée. On peut se l'approprier de différentes manières et justement là pour prolonger ce que disait Guillaume, à l'échelle collective, ils font sauter ces cadres-là du ressort économique. Propose d'autres modèles économiques où justement tout le monde peut participer parce que la part sociale va être par exemple à 50 euros. Alors, c'est toujours 50 euros, mais enfin, c'est beaucoup moins cher que d'installer individuellement un panneau solaire sur son toit. Donc, par cette collectivisation, on choisit les techniques qui nous libèrent. Et ce que je veux dire, surtout, c'est que ce sont des techniques simples. La liberté, elle vient de là. C'est qu'elles peuvent être gérées facilement. Et d'ailleurs, c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, mais comme ces communes étaient pionnières, pour beaucoup, ils ont inventé ces techniques et sont allés donc ces agriculteurs sont allés chercher des ingénieurs dans les Technische Universität pour inventer ces techniques qui n'existaient pas, mais les inventer à l'échelle à laquelle ils pensaient, mais parce qu'une presse à huile, ces agriculteurs savaient très bien que techniquement, c'était faisable. Maintenant, pour 400 agriculteurs, ça devenait une paire de manches et il y avait besoin d'ingénieurs pour le faire. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la pensée technique était tout à fait appropriable pour ce groupe d'agriculteurs. Donc, c'est libératoire parce qu'on en a la maîtrise. Après, très rapidement sur la question des agriculteurs et du fait de produire de l'énergie, avec plaisir d'en discuter plus longuement, ça mérite plus de... une discussion plus longue, mais très rapidement, en Allemagne, ça commence à faire plus d'une dizaine d'années que le mot Energiewirt est apparu. C'est agriculteur, ça se dit Landwirt en allemand, et Energiewirt, donc c'est l'énergiculteur. Alors c'est un mot aussi qu'on voit déjà des fois en français, mais qui s'est moins imposé. Il est très, très couramment répandu en Allemagne, donc c'est pour montrer que cette place des agriculteurs dans le scénario énergétique est totalement pensée. Alors pour le ressenti des agriculteurs, c'est que sur la question de produire de l'énergie en soi, j'ai pas vu de fortes oppositions symboliques parce qu'il y a l'idée que produire de l'alimentation, c'est produire de l'énergie pour l'homme. Donc là, il y a une sorte de lien qui se fait. Par contre, la conversion totale d'un agriculteur en énergiculteur, qui ne produirait plus d'alimentaire, mais qui ne produirait que de l'énergie, ça, c'est un basculement sémantique qui est symbolique, qui est difficile, notamment pour les agriculteurs français, beaucoup plus. Là aussi, parmi les agriculteurs que j'ai rencontrés en Allemagne et en Autriche, ça vient en complément. Et j'ai étudié un couple qui avait dû se reconvertir totalement suite à la vache folle, qui avait dû se faire abattre tout son cheptel et il fallait faire autre chose, il fallait trouver une solution. Donc, ils ont fait de la méthanisation. Mais ce qui était très amusant, c'est que il y a une forte analogie entre méthanisation et vache, et là, c'était absolument récurrent. Et il disait vraiment, on nourrit le digesteur, le méthaniseur, comme on nourrissait nos vaches. Donc, ils cultivaient les mêmes céréales, mais qu'au lieu de servir à nourrir des vaches aujourd'hui, ils servaient à nourrir un méthaniseur. Et c'était vraiment les mots qui étaient employés. Et ça, par exemple, c'est quelque chose qui choque beaucoup d'agriculteurs en France, qu'on puisse cultiver des céréales pour les mettre dans des méthaniseurs. Ce qui est beaucoup plus discuté en Allemagne. Il y a là aussi des représentations qui posent problème, mais enfin, il n'y a pas forcément d'opposition toujours frontale, mais ça demanderait un petit peu
plus de débats, parce que c'est effectivement des questions qui se posent sur la place des agriculteurs dans la société, qui, je trouve, autour de ces questions de transition plurielle énergétique, se posent. C'est-à-dire que c'est peut-être un rôle en recomposition de l'agriculture de demain, notamment pour ces enjeux énergétiques qui se jouent. Je pense qu'on a... sur la préoccupation autour de l'énergie, j'ai pas vu de différence centrale entre des acteurs pionniers du projet et puis des acteurs secondaires. Il me semble que cette préoccupation de l'énergie, elle est partagée, parce que ces installations, eh bien, elles sont très localisées, tout le monde les voit, tout le monde s'y balade aussi, c'est-à-dire que même les acteurs qui n'ont pas été peut-être les fers de lance des projets, se les approprient tout à fait et vont toujours un petit peu voir comment elle fonctionne, la centrale de méthanisation, est-ce que tout va bien. Donc cette appropriation, elle est assez générale, et cette préoccupation de l'énergie aussi. Je trouve, enfin, j'ai pas de différence marquée. Après, je pense bien sûr on aurait des variations individuelles d'une personne à l'autre, mais ça n'a pas été tranché.
On est quand même sur des communes pionnières.
Oui.
Juste une info, vous savez, Arnaud Hazard fait qu'il y a 50 ans, je travaillais pour une association d'éducation populaire qui travaillait avec la commune du Bonnet, qui était déjà, qui avait lancé il y a 50 ans des démarches de démocratie locale, de développement local, etc., qui était un des phares, non seulement en Bretagne, mais en France, dans ce domaine-là. Donc,
et ça circonscrit là-dessus.
Donc c'est un peu la question. Derrière, est-ce que c'est pas... des lieux, je ne sais pas, en Allemagne et en Autriche, où il y a une espèce de culture locale et politique.
Pas toujours.
Pas toujours.
Pas toujours. Pas toujours. Mais des histoires locales qui expliquent ces projets, oui. Ça s'inscrit toujours dans une histoire très spécifique, mais pas toujours une histoire comme menée d'historicité, de forme participative. Mais d'autres sortes peuvent être à l'heure.